Test. Ok. Allons-y. Bon, bonjour à tous. Désolé pour la chaleur, j'y peux rien. Je suis en train de mourir aussi. On va essayer de faire ça vite. Je vais essayer de ne pas vous endormir. On va parler de technique aujourd'hui. C'est un peu comme avant, la conf sur Framasoft. On va pas se prendre au sérieux. On n'est pas là pour ça. Mon sujet, il est écrit en anglais parce que j'ai présenté. En fait, j'ai fait un peu sur mon temps de travail. Du coup, j'ai prétendu que c'était pour ma boîte. Je l'ai aussi fait chez moi, donc j'avais la flemme de les réécrire en français. En français, j'ai mis Pépouze dans le nom parce que c'est un gros projet que j'avais. Je vous en parle pendant 1 heure, donc je ne vous spoile pas maintenant. Et je l'ai fait sur 3 mois en prenant mon temps. Et je me suis dit, j'ai envie que n'importe qui, de une, puisse dans une certaine mesure refaire ce que j'ai fait, et de deux, mon message, c'est surtout que on s'en fiche si vous n'arrivez pas à tout faire en 1 semaine en travaillant tous les soirs de 9h à 3h du mat. On est bien d'accord qu'on a le droit d'avoir une vie, de dormir la nuit, ce genre de choses. Sans plus tarder, allons-y. J'ai 80 slides, on a 50 minutes, ça fait un peu moins de 30 secondes par slide. Alors, ça, on s'en fout. Bon, j'ai ici mon ordinateur corporate de mon entreprise qui s'appelle CGI, qui me plaît beaucoup. On embauche, venez faire du pentest chez nous. Cet ordinateur, conformément à notre politique de sécurité sur les 70 000 postes de CGI, dès qu'ils sont éteints, si on les vole, il ne faut pas que des gens nous volent des documents confidentiels. Ou alors qu'ils les volent de manière chiffrée et qu'ils ne puissent pas les lire. Donc, tous nos ordinateurs, comme dans toutes les grosses boîtes du monde, quand ils sont éteints, le disque est chiffré. Pour ça, il y a différentes solutions. On travaille sous Microsoft, hein, on est une grosse entreprise, on n'a pas de temps à perdre avec les trucs gratuits. Donc, il y a différentes solutions et le soft de Microsoft qui s'appelle BitLocker est sorti il n'y a pas très longtemps et on avait des ordinateurs avant. Donc on a une solution chez nous qui est celle de anciennement PGP qui a été racheté par Symantec qui s'appelle World Disk Encryption. Rentrez, il reste de la place, hein. Pas de panique, on est bien. Et c'est installé sur nos postes. Alors, c'est du déchiffrement transparent pour Windows. Windows n'est pas vraiment au courant que son disque est chiffré ou pas. Ça se passe à un niveau qu'il ne voit pas. On va retourner à la slide d'avant, qui en fait nous intéresse. C'est écrit en anglais, c'est chiant, et puis c'est petit, donc on va retourner sur les images, comme ça vous aurez moins envie de dormir. Il y a un système, quand je démarre, je vous ferai une démo tout à l'heure où je vais démarrer une machine virtuelle qui vous montrera ce qui se passe. Il me demande mon mot de passe Windows, qui permet de déchiffrer le disque dur. Et il est capable de vérifier mon mot de passe Windows sans avoir déchiffré la partition qui contient ce mot de passe. Donc ma question, c'était comment il peut faire pour savoir que c'est le bon mot de passe, si c'est le mot de passe qui permet d'accéder au mot de passe? Ce genre de truc. Et donc je me suis dit, creusons, voyons voir comment c'est fait. Alors là, je vous liste juste des fichiers qui traînent dans mon dossier Program Files qui prouvent que Symantec est installé. Bon, c'est un peu accessoire. Ça, c'est ce que je viens de vous dire, que le bootloader qui est. Je vous parle des ordinateurs après, vous inquiétez pas pour l'instant. Le bootloader est capable de checker mon mot de passe central dans l'entreprise, sans réseau, sans avoir même commencé à lire ce qu'il y a vraiment sur ma partition Windows. On est vraiment dans les toutes premières opérations qui se passent sur mon ordinateur. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette chose? En vrai, c'est que ça buguait à une époque et j'ai été regarder un peu. Et j'ai vu qu'il y avait du check de mot de passe et je me suis dit, hey, et si je testais mon mot de passe? Bon. Alors, j'ai regardé pas mal de documentation avant de commencer à creuser vraiment dans le sujet parce que c'est très facile. Vous allez sur Internet, vous tapez le nom du soft, vous mettez file type PDF et vous tombez sur de la doc qui vous dit qu'on peut mettre des clés additionnelles de déchiffrement qui permettent de déchiffrer avec une même clé tous les postes de l'entreprise, indépendamment des mots de passe des gens. Il y a aussi un truc d'administration qui est on verra plus tard pourquoi je vous parle des deux différentes. Les caractères autorisés, vous aurez repéré que c'est que des caractères ASCII tout pourris. Et là-haut, un petit une petite fenêtre qui nous prouve qu'il existe un soft qui est capable d'utiliser cette Additional Decryption Key, ADK. On en parle plus tard. Alors bon, ça c'est le seul document qui existe en deux versions où ils ont juste changé le logo à l'occasion du rachat des boîtes, où ils expliquent qu'un disque dur est constitué de cylindres, de secteurs et de têtes. Il y a du chiffrement. Bon, aujourd'hui, on n'a plus trop ça. On a des SSD qui sont des grosses clés USB et il n'y a plus de disques physiquement qui tournent dedans. La partie intéressante de ce joli PDF avec des 0, des 1 et des documents confidentiels découpés au ciseau, c'est que ici, donc on ne peut pas lire, il y a écrit World Disk Recovery Token, WDRT, on verra ça plus tard, et différents sujets, bref, il y a plein de méthodes pour accéder aux données qui sont chiffrées sur un disque dur. Ça confirme qu'il n'y a pas que mon mot de passe Windows qui permet d'accéder aux données. Je me suis dit, yes, quelle est la clé qui me permet de déchiffrer tous les PC de mes collègues qui ont laissé leur PC au taf la nuit ? J'ai envie d'aller en prison. Bon, ça, on l'a déjà vu, on s'en fout. Alors, je me suis dit, ok, je veux regarder ce qui se passe avant que Windows démarre. Je ne peux donc pas le faire depuis Windows, puisque si Windows a démarré, c'est trop tard. Il a donc fallu que j'aille creuser sur mon disque dur. Pour ça, je me suis dit que j'allais faire une copie complète de tous les 0 et les 1 qu'il y avait sur mon disque dur. Alors ça se fait très très bien. On branche une clé USB avec ce qu'on appelle une instance live d'un système d'exploitation. Il y a des clés USB Ubuntu, Debian qui existent. On la branche, on démarre son ordinateur et on appuie sur des touches au hasard. Soit c'est F8, soit c'est F12, soit c'est autre chose. Et on dit il doit y avoir des boutons qui existent qui permettent de dire je veux démarrer non pas sur le disque dur, mais sur une clé USB. Ce qui permet de démarrer sur un autre disque dur qui est la clé USB, qui contient un autre système d'exploitation. Bon, c'est un peu accessoire, on peut aussi enlever le disque dur et le brancher sur un adaptateur USB pour disque dur, sur un autre OS. C'est vraiment pareil. Alors, j'ai démarré une Debian Live sur ce PC-là. Et j'ai tout simplement fait une copie de mon disque dur qui est référencé derrière le fichier /dev/sda. C'est un peu accessoire les détails, et j'ai écrit ça dans un fichier qui s'appelle fulldisk.img. Donc ça prend une commande, il y en a trois versions là, mais c'est exactement pareil. On prend le disque dur et on l'écrit dans un fichier. Alors il faut être malin, il ne faut pas essayer d'écrire le disque dur dans un fichier stocké sur le même disque dur, ça ne rentre pas. Donc ce disque dur fait 200 gigas, celui-là fait 1 tera, ça rentre. Alors, ça rentre d'autant mieux qu'on peut le faire tenir deux fois. Une fois avec le mot de passe 1 et une fois avec le mot de passe 2. Pour voir ce qui change quand on change de mot de passe. On le verra plus tard. Et en dessous, c'est juste les commandes que je tape. Ça, c'est une ligne de commande Debian où je liste les disques durs que j'ai. On en a deux, SDB1, SDB, SDC, SDA. Donc en fait, j'en ai trois. C'est un peu accessoire. Celui-là, il fait 300 gigas. Celui-là, il fait 1 tera. Celui-là, il en fait 2. C'est un autre disque chez moi. Bref, c'est quelques exemples de commandes si vous voulez refaire l'expérience chez vous. De toute façon, toute la doc est sur Google. Alors, la commande file, c'est une commande qui permet de tenter de reconnaître n'importe quel fichier. Non pas à partir de l'extension, mais à partir du vrai contenu du fichier. Les premiers 0 et les 1. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, ou par accident ça se fait, de lire dans un fichier PDF avec Notepad++ ou avec Notepad.exe. On peut lire un peu de texte, ça commence par %PDF, ce genre de choses. C'est crade. Bon, file, c'est le petit programme qui sait reconnaître ce qu'il y a dans un fichier, qui nous dit ton machin qui s'appelle test.pdf, si je regarde dedans, ça ressemble plutôt à un .exe. T'as pas envie de cliquer dessus. Ce genre de choses. Donc, je lance file sur tous les fichiers qui sont dans mon dossier bootloader, et il y en a 4 qui sont juste des morceaux de disque dur. J'ai extrait, on peut le voir avec le ls qui liste les fichiers, bon, c'est un peu accessoire. J'ai les 500 premiers mégas de mes disques durs, et comme j'ai des tout petits ordinateurs à côté, j'ai pris que le premier méga parce que c'est là-dessus qu'il y a des informations intéressantes. On va rentrer dans le vif du sujet, donc tout ça on s'en fout. Aussi, on va regarder un peu. Non, ça fdisk permet de lister les partitions qui sont dans un disque dur, que ce soit un vrai appareil ou un fichier. Parce qu'en fin de compte, un disque dur, c'est juste une série de 0 et de 1. Et que ce soit vraiment sur du matériel ou stocké dans un fichier qu'on pourra appeler .img ou .autre chose, on s'en fiche, c'est juste une série de 0 et de 1. Donc fdisk permet de lister, et là, il reconnaît bien que j'ai une petite partition de 500 mégas et une grosse de 240 gigas. Alors, ça, on va vous faire une démo après, on s'en fout. Bon. Qui ne sait pas ce que c'est qu'un ordinateur? Très bien, on en a un. Je suppose que le reste, c'est plus ou moins deux. Le reste, c'est plus ou moins comment ça se passe. Bon, vous avez tous lu le manuel de Intel qui vous explique comment marche un processeur x86. Ça veut dire 32 bits, c'est une grande famille de processeurs. Architecture qui a ses défauts, mais qui a gagné le marché, comme Microsoft. Bon, Windows. Ces PDF-là contiennent tout ce que vous avez besoin de savoir pour écrire un système d'exploitation. Vous avez besoin de savoir ça, mais vous avez aussi besoin de faire des études et de passer énormément de temps à coder. Mais la base est là, et il y a notamment ce petit paragraphe qui nous explique que un processeur, ça marche dans différents modes, et que c'est super flou. Quand on power up, le processeur est placé en mode Real Address Mode, qu'on appelle en français le mode réel. C'est le mode le plus simple dans lequel un processeur puisse être. Alors, la vision très simple d'un ordinateur, c'est un processeur et de la RAM. Le processeur, il exécute des instructions les unes après les autres, et la RAM contient les instructions. Ça, c'est ce qu'avait défini Turing, plus ou moins dans ce qu'on a fini par formaliser comme étant une machine de Turing. En vrai, un processeur, ça permet aussi d'avoir des entrées et sorties. On l'a vu tout à l'heure, ça permet notamment de lire des choses depuis un disque dur. Ça permet de faire sortir des choses. Alors, ce n'était pas l'ordre de mes slides, mais on s'en fout un peu. Quand on allume l'ordinateur, il y a du courant qui se passe. Et quand on rappuie sur le bouton ou qu'on appuie sur un bouton, ça génère des interruptions qui vont venir déranger notre processeur au fur et à mesure qu'il exécute des instructions, et il se passe des choses. C'est aussi un peu accessoire, c'est pas ça qui nous concerne aujourd'hui. On va passer un peu vite, j'avais fait un peu semblant. Bon, si, d'accord. Quand un ordinateur démarre, il essaye de trouver un système sur lequel il va démarrer. Parce que quand on l'allume, toute sa RAM est vide. Il a aucune idée de ce qu'il va faire. Le processeur, il ne sait pas ce qu'il est censé exécuter. Tout était éteint, donc il y a des zéros partout. Tous les appareils viennent de se faire allumer et on ne sait pas quoi faire. Heureusement, il y a ce qu'on appelle le BIOS, Basic Input-Output System, qui commence à être remplacé par UEFI, qui est une autre technologie, bon, on s'en fout un peu. C'est la puce qui est dans votre carte mère, qui connaît tous les composants, et dès lors qu'il y a du courant, c'est elle qui sait faire, qui dit à tout le monde: attendez, là on se pose, on a encore rien dans la RAM, mais toi, tu me files un petit peu d'octets, on va les mettre dans la RAM et on va démarrer dessus. OK? Donc le BIOS, ça c'est limite écrit en dur dans les puces, que le BIOS, il est posé dans la RAM, il contient du code à l'adresse 0xFFFF. C'est une manière de noter les nombres en hexadécimal. Imaginez que c'est 10 000, si vous ne savez pas lire l'hexadécimal. Enfin, c'est une adresse arbitraire. Et le BIOS, c'est pour ça que vous appuyez sur F8 ou F12 ou SUP ou échappe ou toutes les touches au hasard jusqu'à ce que ça marche. C'est lui qui est capable de vous faire apparaître un petit menu en vous disant: sur quoi tu veux que je démarre? Par défaut, en général, c'est ce qui arrive chez vous, il décide de démarrer sur le disque dur. Ce qu'il fait alors, c'est qu'il prend les premiers octets du disque dur, vraiment le tout petit début, et il le pose dans la RAM à l'adresse 0x7C00. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. On va voir avec une démo tout à l'heure ce procédé en vrai. Il faut que vous sachiez qu'on peut démarrer sur son disque dur, mais on peut aussi dire au BIOS: tu démarres pas sur le disque, mais tu démarres sur une clé USB. Donc il va prendre les premiers octets de la clé USB et il les pose dans la RAM. Et après, il fait sauter le CPU dessus et on a démarré un autre système d'exploitation. Il y a une petite finesse. On peut par exemple démarrer sur le réseau. On qui contient vraiment rien, il le met dans la RAM, et cette puce, elle sait faire une chose, enfin une petite dizaine. Elle sait allumer la carte réseau, demander une adresse IP et télécharger un fichier, le mettre dans la RAM et l'exécuter. Et ça, c'est vraiment super parce qu'avec rien, avec aucun disque, vous êtes capable de démarrer un système d'exploitation complet qui vous est servi par le réseau. Et ça, c'est bien sympa. C'est comme ça qu'on fait dans des fermes d'installation d'ordinateurs pour configurer 500 ordinateurs tous en même temps. On a un stagiaire qui court entre les postes pour aller les démarrer, faire F12 et choisir installation sur le réseau. Et après, c'est les ordinateurs qui travaillent tout seuls pour aller télécharger tout un système d'exploitation qui va se poser sur le disque dur, qui va dire maintenant, tu redémarreras, mais sur le disque dur, ils téléchargent leur mise à jour. Et vous pouvez donner ça à la personne qui attend son laptop, qui commence le travail. Alors, ça, c'est ce que j'ai au début de l'exécution de mon ordinateur. Il y a une toute petite partie du disque au début qui est en clair, forcément, puisqu'elle est posée dans la RAM pour être exécutée. Elle l'est, il se passe des choses. Je rentre notamment mon mot de passe et après coup, le disque est déchiffré et Windows, qui est stocké là-dedans, s'exécute. Ma question, c'est qu'est-ce qui se passe entre là et là? Alors, ça, c'est dégueulasse. Radar, c'est un projet qui est très très sympa c'est un outil qui permettait à l'origine de lire dans des vieux disques tout cassés, d'aller chercher des données à des endroits précis, et qui s'est transformé en un des meilleurs désassembleurs du marché. Alors on peut voir une petite session où je lance Radar en mode 32 bits, avec une longueur d'opération de 16 bits. Ça correspond, là je lui dis, on est en mode réel. C'est commande toute moche. Ensuite, je lui dis, tu charges le fichier mbr1.img et tu me le poses dans la RAM à 0x7600. C'est ce que fait le BIOS. Il prend un bout de données, il le met dans la RAM. Ensuite, j'affiche les 16 premiers octets. Il ne met que des zéros parce que, comme un gland, j'étais resté à l'adresse 000. Donc, je me déplace à 7C00, ici, et je commence à afficher les 16 premiers octets. Guess what? Ça marche et j'ai les premières informations qui étaient dans mon disque dur. Ensuite, ça c'est l'aide de radar, on s'en fiche un peu. L'aide est un peu galère à utiliser, je ne vous le conseille pas forcément. Bon, il y a plein de modes de radar, notamment celui-là où on est toujours à 0x7C00 et il a reconnu que les premiers octets correspondent à des instructions pour le processeur qui lui disent alors t'arrêtes tout et tu sautes, jump, jusqu'à une autre adresse qui est 7C4A, donc qui est bien bien plus loin. C'est ça qu'il y a sur tous les disques durs du monde, à peu près. Les premiers octets, c'est un saut qui dit tu vas ailleurs, parce que ailleurs, il y a le reste du vrai code du chargeur d'amorçage, qui en général saute sur un autre chargeur, qui saute sur un autre chargeur, et ainsi de suite jusqu'au système d'exploitation. Alors ça, c'est intéressant. J'avais fait deux copies de mon disque dur, juste avant et après, d'avoir changé mon mot de passe Windows. Et qu'un petit pop-up m'ait dit bravo, j'ai synchronisé ça sur ton disque dur. Et il y a un programme de la suite Radar qui s'appelle Radif 2, parce que c'est Radar 2, qui m'a dit, je lui donne en paramètre les deux fichiers là, et il me dit, il y a quatre zones qui changent, enfin deux. Dans le premier fichier, on a un truc qui devient autre chose. Et un peu plus loin, on a cette grosse chose-là qui devient autre chose. Et c'était les seules di différences entre mes deux copies de disque dur, en tout cas entre le début, c'était ces tout petits bouts de choses-là. Je me suis dit, j'ai changé mon mot de passe, il y a ça qui a changé, il y a peut-être une corrélation. Donc j'ai décidé de creuser, alors ça on s'en fout un peu, c'est juste que j'ai fait un X-dump, et on ne peut pas lire puisque ce choix de couleur est à regretter, chier, voilà. Bon, c'était pour vous illustrer le fait qu'avec 20 lignes de Python, on peut faire un petit script qui vous transforme une série de 0 et de 1 en ce genre de choses illisibles aussi, en une sorte de petite carte des octets qu'on a sous les yeux. Et j'ai repéré aussi, on n'y voit rien, C'était pas une bonne idée, le four noir, navré. Ça, c'est une autre manière de mettre en évidence les différences entre les deux morceaux de disque, qui me met en vert et en rouge ce qu'il y avait avant et ce qu'il y avait après. Et pareil, la seule différence qu'il voit, c'est par ici quelques petits nombres qui changent. Et ensuite, après mon login et le nom de mon domaine dans notre entreprise, il y a une sorte de gros blob là, de série de 0 et de 1, tout crade, qui change. Et c'est la seule chose qui change. Et juste avant, il y a mon login. Donc là, je commence à me dire, vraiment, il y a sûrement du mot de passe par là. D'autant plus que quand je regarde, donc je regarde sur un vrai écran, donc j'arrive à lire, il y a juste à côté un truc qui s'appelle tout mon nom d'ordinateur, le nom de notre domaine et mon login, et encore un blob un peu crade. Pareil, ça c'est celui qui avait changé quand j'ai changé mon mot de passe. Et là, je tombe sur Logica, c'est le nom de CGI qui a racheté Logica.adk, Administrative Decryption Key. Et aussi WDE, World Disk Encryption.administrator. Administrator, mot de passe. Je fais du test d'intrusion dans mon métier quand je fais pas ça. Et quand je tombe sur des choses qui s'appellent administrator, je creuse. Alors, ça, je vous le montre comme ça à froid, mais on va le faire à chaud. Parce que je vais vous montrer que vraiment, à partir de fichiers, on peut tomber sur des données. Donc, j'ai ici, là, un disque dur sur lequel je n'ai pas de souris. Voici. Alors, data. Hop. Donc là, j'ai pas mal de fichiers qui traînent. J'espère que j'ai rien laissé traîner. Et on voit deux fichiers d'image disque, machin.img, qui font chacun 250 gigas. Des gros fichiers, parce qu'ils contiennent tous les 0 et les 1 de mon disque dur. Pourquoi vous vous marrez? J'ai laissé de la merde? Non, bon. Alors, ces gros fichiers-là, je pourrais cliquer dessus et dire ouvrir avec Notepad. Ça serait pas une bonne idée, parce qu'il essaierait de me charger dans ma mémoire qui fait 4 gigas, je crois, les 250 gigas. Donc ça ne rentre pas. Et je vais vous montrer comment on fait pour voir les premiers 0 et les 1 qu'il y a dedans. Je vais devoir poser le micro, ne vous endormez pas. J'ai ouvert un terminal et là j'ai lancé la commande ls qui permet de lister tous les fichiers. Bon, c'est un peu accessoire. Je vais lister tous les fichiers qui s'appellent quelque chose.img. On en a beaucoup, beaucoup moins. Il y a notamment une copie de la RAM que j'avais fait. Donc c'est pareil, on prend tous les 0 et les 1 et on les écrit dans un fichier. Et quelques copies de disque dur. Et on va commencer à regarder les 0 et les 1 qu'il y a dans le 1.bis.img. Nickel. Donc là, on a vraiment tous les 0 et les 1, donc notés par octets, parce qu'on ne regarde pas vraiment des 0 et des 1, c'est un peu désagréable, qu'il y a tout au début de mon disque dur. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a sur mon disque dur, s'il n'a pas trop changé, mais a priori, il commence toujours par les 3 octets qui correspondent au jump, et après, il affiche PGP guard. C'est à peu près son numéro de version. Et si je me promène un peu dedans, alors on a des choses un peu crades. Quelques petites chaînes de caractères, là, loading stage 2, geom, read, et puis error. Ça, on le verra plus tard, mais très très vite, parce que c'est à peu près inintéressant. C'est que il s'est affiché différentes causes d'erreur, et à la fin, il affiche error. Tout le code est là, sous vos yeux, si vous voulez reverser la chose. Oups, donc je me suis trompé. Et si on descend un peu. Donc là, il a aussi d'autres messages d'erreur, genre partition, tableau des partitions invalides ou pas de système d'exploitation ou ce genre de choses qui peuvent arriver. Et en dessous, IDW, mon login est des 0 et des 1. Je scrolle un peu, IDW, encore mon login, mais c'est cette fois sans mon nom d'ordinateur, des 0 et des 1. Logica.adk, donc là, ça commence à sentir bon, et pareil, WDE.administrator. Et ensuite, il y a un espace qui dit qu'entre 2, 3, 4, 0 et 7, E, 0, 0, on n'a que des 0 partout. Bon, c'est un peu accessoire, parce qu'après, on se rend compte qu'on tombe dans n'importe quoi. Je soupçonne que ça soit des données chiffrées ou compressées. Donc, on retourne tout en haut. Voilà. Et vous vous rendez compte que vraiment, c'est dans le tout, tout début du fichier qu'on avait ces informations. Donc, quittons ça. Ok, ça crache. PowerPoint. Voilà. Génial. Donc là, je vous la refais encore une fois. Vraiment, dans le tout début du disque dur, je trouve à la suite mon login, ma boîte et un truc qui s'appelle administrateur suivi par des octets bizarres. Et quand j'ai changé mon mot de passe, c'est cette partie-là qui a été changée uniquement. Donc vraiment, ça sent le mot de passe. Donc ça, on s'en fout, c'est juste que je vous montre qu'avec trois lignes, on peut faire un petit graphe qui nous prouve que il y a à peu près des données constantes au début, et à partir d'un certain moment, on tombe dans des trucs qui sont presque à 1, donc qui sont presque complètement aléatoires. Ça, c'est pour ceux qui aiment lire les slides, on a en bas, on ne peut pas le lire, mais une seule ligne de commande qui permet de passer du fichier à cette petite image. Ça passe par Gnuplot, qui est un excellent logiciel libre. Je ne vais pas vous perdre là-dedans. J'ai essayé d'utiliser Radar pour faire de la rétro-ingénierie dessus. On peut voir qu'il colle Geom, Error, enfin Read, ce genre de choses. Il appelle une fonction et après il saute forcément. Je ne sais pas si on voit les petites flèches. Il saute forcément sur un truc et puis. On est tranquille. Là, j'avais dû passer genre 6 mois à me dire, bon, allez, je vais vraiment dumper mon disque dur. Ce soir, je m'y mets. Je ne fais pas autre chose, comme la cuisine ou le ménage. Non, non, vraiment, je travaille dessus. Bon. Ensuite, alors, bon, tout ça, on s'en fout. On va faire une démo. Parce que c'est quand même bien plus sympa. Alors, je lance PowerShell, mais vous ne le voyez pas, parce que je ne suis pas sur le bon écran. Donc, j'ai un terminal Windows qui va me permettre de lancer QEMU. QEMU est un excellent émulateur et je lui dis, tu me lances un ordinateur, son disque dur, c'est mon fichier, machin truc.img, et tu me le lances en pause. C'est-à-dire que tu prépares tout, mais à la première instruction, tu lui dis, pop-up, garçon, t'attends qu'on t'ait dit de partir là. Et tu m'exposes ça sur le réseau pour que je vienne m'y connecter pour lui dire vas-y, arrête-toi, attends, je regarde dans ta RAM comment ça se passe. Et aussi, net known, tu coupes le réseau parce que j'ai pas envie que ça dise à ma boîte hey, au fait, machin, ça fait quand même 50 fois qu'il essaye de démarrer, tu veux pas lui bloquer son compte? Ce genre de truc. Alors je le lance. Et il y a une fenêtre que vous ne voyez pas, qui vient d'apparaître, qui dit. L'invité, donc la machine virtuelle, n'a pas encore démarré son écran. Tu m'étonnes puisqu'elle a exécuté zéro instruction. Donc ça, c'est un ordinateur éteint. On vient de lui mettre le courant et on lui a dit, tu bouges pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter à une interface de debug pour lui dire, vas-y un peu, tu t'arrêtes, tu continues, on voit comment ça se passe. Il est 17h54, il me reste 20 minutes. Ouais, ça passe crème, on va aller un peu vite. J'ai lancé GDB, le GNU Debugger, qui a été écrit notamment par Richard Stallman, celui qui a une grande barbe et qui mange les trucs de ses pieds. Enfin, il est bien en vrai. Alors, je lui ai dit, donc tu te lances, il m'a dit salut, je m'appelle machin, bon. Je lui ai dit, tu t'attaches à cette IP-là, ce port-là, ça correspond à mon ordinateur. Et il m'a dit, c'est bon, je me suis connecté, il s'est arrêté là, à 0, FFFF 0. Donc c'était pas FFFF, c'était FFF 0. L'adresse ou le BIOS à sa première instruction. Donc avant de lui dire, vas-y mon gars, je vais lui dire, quand tu arrives à 0x7C0, donc la première instruction qui était sur le disque dur, tu vas t'arrêter. Je vais faire ce qu'on appelle poser un breakpoint. Ça y est, j'ai mis un breakpoint et je lui ai dit continue. Il m'a dit je continue. Et ensuite, il m'a dit je me suis arrêté sur le breakpoint qui était à l'adresse 0000 7C0. Sur l'écran, il a initialisé l'écran et il a dit bonjour, c'est le BIOS SEA BIOS version machin. Je vais essayer de démarrer depuis le disque dur. Donc ça confirme bien qu'on a du code qui est chargé depuis le BIOS, qui s'exécute, et après, il choisit son système de démarrage et il dit, ça y est, c'est parti, je démarre sur le disque dur. Donc là, je vous épargne pas mal de choses, on va lui dire, tu continues, et a priori, il ne s'arrêtera jamais. Voilà ce que j'ai sur mon écran quand je démarre. C'est-à-dire que là, j'ai une interface où je peux taper mon mot de passe. Si je fais tab, je peux le voir. Voilà. Et je vais pouvoir dire OK. Et il m'a dit non, ce n'est pas ça. Bon, c'est un peu crade. Je vais mettre un truc débile. Ce genre de truc. Moi, ce que j'ai fait pendant mes quelques mois d'analyse du truc, enfin mes quelques une dizaine de soirées, j'ai pris ça, j'ai posé plein de breakpoints partout sur toutes les fonctions que j'ai trouvées et j'ai essayé de suivre par où passait ce mot-là. C'est-à-dire que je l'ai fait, j'ai dit OK, j'ai trouvé la fonction qui réaffiche tout le menu, j'ai mis un breakpoint dessus et ça m'a permis d'essayer de suivre par où partait ce machin. Alors là, on va aller très très vite, navré. Donc lui, je vais le tuer parce que sans ça, il va me faire cramer mon PC vu qu'il fait déjà 50. Tac. Donc ça, on s'en fiche un peu. C'est pour vous dire que utiliser un débugger à travers le réseau, ça marche pas toujours très très bien. Genre là, j'ai essayé de chercher service dans la RAM parce que là, il y a écrit service dans tous les sens et il me l'a jamais trouvé. C'est assez complexe comme sujet et c'est pas trivial. Après, j'ai fait pareil avec IDA, qui est un très bon désassembleur. J'en ai une version payante pour le travail. Et ça marche très très bien. Bon, c'est pas facile non plus. On lui dit, tu te connectes à distance, et c'est un peu pareil. Là, c'est le même code qu'on avait tout à l'heure sur Radar, à savoir, on a des petits bouts de chaîne de caractères, on a du code. Bon, c'est un peu galère à lire. On va aller très très vite. Il y a une chose que je sais faire en rétro-ingénierie et que vous saurez tous faire, c'est scroller dans des mots. Tous les bons désassembleurs savent faire ça. Il repère tous les endroits où c'est pas du code, crade, des 0 et des 1 illisibles avec de la manipulation de la mémoire, du disque dur, mais des mots humains. Genre là, boot failed. J'ai passé mon temps à scroller dedans. J'ai vu que ces chaînes de caractères-là, elles étaient utilisées que dans certaines fonctions. Et ça m'a permis de nommer les fonctions grâce à ces petites chaînes de caractères. Genre, la seule fonction qui affiche boot failed, je pense qu'elle arrive quand le truc n'a pas réussi à démarrer. Et grâce à toutes ces chaînes de caractères qui traînent, j'avais déjà une vue en gros de ce que ça allait être comme binaire. Et ça m'a permis de trouver en quelques heures, je pense, la fonction qui permettait de réafficher le menu. Et celle-là, elle est bien parce qu'elle est appelée qu'une fois de temps en temps. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé de débugger un truc, mais quand on s'arrête à chaque opération, il y a beaucoup d'opérations qui se passent. Et on a très vite fait de se perdre. Donc ça, c'est encore l'intro. Ça, c'est parce qu'il y a vraiment plein de chaînes de caractères partout, notamment qui décrivent des menus secrets. Et en gros, on passe son temps à scroller. C'est bien sympa. Ça, on s'en fiche. Là, c'est le moment où je me suis perdu. C'est-à-dire que c'est trop petit pour qu'on puisse lire. Quand le processeur démarre, il se met en mode réel. L'adresse 55 dans la RAM est à l'adresse 55. Quand le pointeur des instructions, qui est un registre, dit qu'il est à l'adresse 55, il est vraiment dans la RAM à l'adresse 55. Et il y a un moment, ils font une opération un peu obscure que je vous épargne parce qu'il fait 50 degrés, où ils disent ben, maintenant on va mettre en place ce qui s'appelle de la segmentation. Et quand tu vas aller à l'adresse 55, il faudra que tu comptes un truc de base plus 55. On ne va pas être directement avec un mapping 1-1 entre les adresses qu'on utilise et les 0 et les 1 sur la RAM. Et là, tous les débuggers sont à peu près perdus. Il paraît que c'est un bug dans IDA. Je n'ai pas réussi à suivre et vraiment, c'est un peu accessoire. C'est un peu triste parce que c'était le moment où j'ai réussi à tracer qu'il y avait ce que j'ai tapé, donc la lolol QWERTY, et les 16 premiers octets qui étaient dans le blob bizarre du début de mon disque dur qui suivait mon login. C'est-à-dire que je lui tape un truc, il dit OK, donc je prends le machin que tu tapes, je prends au début du disque dur les 16 premiers octets du blob qui suit ton login, je le mets à un endroit, donc ça ressemble à la fonction. Tu passes un mot de passe, tu passes un truc bizarre et il regarde si ça match. Et à partir de là, j'ai été perdu. Donc j'étais un peu triste. J'ai passé du temps dessus, ça n'a pas marché. Je crois que j'ai des slides après. Là, c'est un gars de Synactive qui m'a dit: Ah, mais c'est simple, c'est un bug dans IDA. En fait, il faut que tu te connectes, que tu débugues IDA quand tu débugues ta machine virtuelle qui est hypervisée. Et donc tu vas patcher IDA pour lui dire, au lieu de demander LDT, GDT, tu demandes LDT. J'ai essayé, ça a craché un coup, et j'ai dit ok, je vais aller faire autre chose comme la cuisine ou jouer à Overwatch, enfin ce genre de truc. Voilà le souci que j'avais, c'est que avant on peut lire le code, et après cette opération bizarre qui met en place de la segmentation, mon debugger, il va lire la vraie adresse 440 avec rien dedans, et il dit mais qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, on marche sur du rien et il se passe des trucs, je suis tout perdu, enfin pas très commode. J'ai essayé de creuser un peu et j'ai fini par abandonner. J'ai fait un essai, un moment, je me suis dit, bon, ok, j'arrive pas à patcher IDA, peut-être que je peux regarder sur le réseau ce qui passe, et au moment où il demande GDT, je remplace par LDT. Ça doit pas être si dur à faire. Ça, c'est 12 lignes qui vous permettent de recevoir une connexion sur un port, de modifier des trucs et de relancer cette connexion ailleurs. En gros, quand on reçoit une connexion, on se reconnecte nous-mêmes au port que l'on veut, et ensuite, dès qu'on reçoit des choses, on les transforme et on les renvoie. Et ce qu'on reçoit en réponse, on le réémet sur la première socket. C'est vraiment le concept du proxy. Je reçois un truc, je le renvoie, je reçois un truc, je le renvoie. Et au milieu, j'ai mis que je remplace tout ce qui est des 0x55, ça correspond à U majuscule, je les remplace en 9. Bon, c'était juste pour faire un test, j'en ai fait un plus gros, un peu plus complet. Mon objectif, c'est vraiment de vous dire, en 10 lignes, on peut faire ce genre d'opération sur le réseau. Et se dire, ouais, j'ai un truc bien, et investir après 20 heures de travail pour faire un truc encore plus énorme, et se dire à la fin, bon, en fait, je vais aller faire autre chose. Mais c'est très, très facile de faire de l'interception comme ça. Donc ça, on s'en fiche. Ça, c'est un prototype si vous utilisez IDA et que vous avez les slides au format PDF, parce que là, c'est illisible, et de toute façon, vous n'allez pas le noter. Il est possible avec l'interface Python qui permet de donner des commandes à IDA, d'exporter tout ce qu'on a fait, à savoir nommer des fonctions dans la mémoire, de les noter dans un fichier texte, dans un sens, et de les rouvrir dans l'autre. Ça pourrait être utile si vous avez chez vous une licence peut-être de IDA et au travail une vraie, et que du coup ils ne veulent pas se parler entre eux. Je ne sais pas si j'ai la capture d'écran. Non. Pourtant, c'était l'une des seules slides marrantes. Non, je ne l'ai pas, mais en gros, une vraie licence IDA, quand vous lui donnez un fichier IDA créé avec une IDA craquée, il vous dit pop-up garçon, c'est non. Donc, ça, c'était après quelques soirées. J'ai nommé toutes les fonctions. Il y en a plein qui s'appellent encore sub et une adresse, et on ne peut pas lire, mais il y en a plein qui s'appellent gros menu qui a l'air de faire ça, menu qui a l'air de faire un truc. Bon, j'avais pas bien capté. Ça, c'est là où je vous montre. Vous voyez en gris pâle sur noir pâle, admin passphrase, qui est au milieu du code d'une fonction. J'avais aucune idée de ce que faisait la fonction, mais les gars de Symantec, ils ont laissé admin passphrase dedans. Donc je me suis dit, yes, j'ai la fonction qui check la admin passphrase. Et de cette manière, j'ai pu noter des trucs genre secret question stuff, forgot passphrase menu, ce genre de choses, qui avaient l'air d'être plutôt liés et ça a bien marché. L'air d'être plutôt lié sur IDA, sur d'autres désassembleurs. Quand on a une fonction, on peut lui dire, toi, quelles autres sous-fonctions tu sais appeler et par qui tu te fais appeler? Genre, print, ce qui va permettre de changer des pixels sur l'écran, c'est appelé par énormément de monde. Alors que le méga menu du début, il est appelé une seule fois quand il se lance. Et après, c'est lui qui appelle d'autres sous-petits menus. Donc là, on a huge initial main qui appelle huge help menu qui appelle je sais pas quoi, secret admin screen peut-être. Et là-haut, on doit avoir le print tout en bas qui se fait appeler. Bon, j'ai creusé un peu dans cette affaire. J'ai passé mon temps à nommer des trucs. Là, on revoit les IDW, mais on peut pas lire. Bon. Là, on voit à gauche, vous voyez dans le code qui est pas absolument illisible, je savais qu'il y avait des fonctions, ils ne les avaient pas codées eux-mêmes, ils ne les ont pas inventées. Il y a quelques petits nombres, là 6-5-5-21, je l'ai cherché sur internet, je me suis dit pourquoi 6-5-5-21, et il se trouve que c'est le plus grand nombre premier en dessous de tous les nombres, enfin c'est le plus grand nombre premier qui tient sur 2 octets. Et qu'il est utilisé dans la fonction Adler32, qui est une fonction de contrôle d'intégrité. Bref, j'ai nommé ça vaguement Adler32 contrôle d'intégrité. Sur un malentendu, c'est ce que ça fait. Et il s'est trouvé après coup que c'était ce que cela faisait. Alors, parmi les choses que j'ai repérées dans le code en cherchant sur Internet, il y a un endroit dans la RAM où il stocke les nombres de la suite de Fibonacci pré-calculé. Alors, je me suis demandé pourquoi. J'ai cherché un peu. Il y a des algorithmes de compression et de décompression qui sont basés sur la suite de Fibonacci. Vous savez, quand on fait 1 plus 1 égale 2, 1 plus 2 égale 3, 2 plus 3 égale 5, elle a des propriétés sympas, le nombre d'or, tout ça. Et la seule conclusion logique que j'ai eue, voilà, j'ai rien capté du tout. J'ai rien capté. Et elle est appelée de partout. Donc, vraiment, je suis perdu. Il y a aussi un truc marrant. J'ai cru que c'était du base 64. Un encodage, vous en avez sûrement vu à la fin des URL sur Google. Il y a énormément de choses avec des lettres bizarres qui veulent rien dire. En général, ça s'appelle du base 64. Et ils ont mis un alphabet qui ressemble un peu à ça, mais ils ont mis BOIS à la fin. Et je me suis dit, mais pourquoi ils ont fait ce truc-là? J'ai trouvé aucune référence sur Internet. Je suppose que c'est du code maison. Et vraiment, je ne sais pas pourquoi. Si vous savez, ça m'intéresse. Bon, ce genre de choses étranges, hein, on ne va pas perdre de temps là-dessus. Là, c'est le machin des questions secrètes. Ah oui, c'est la slide de fin. Qu'est-ce que je pourrais faire après? Bon, ce n'est pas la slide de fin parce qu'en fait, ce midi, je me suis dit, mais attendez, pourquoi je me fais chier dans la RAM là? Pourquoi je regarde mon machine virtuelle que je débug avec un truc que je débug pour aller lire des trucs dans un environnement tout à fait inconfortable? S'il y a un gentil petit point exe tout bien formaté qui sait me changer mon mot de passe. Et donc j'ai été ch chercher PGPWDE qui est capable de me lister que j'ai bien Logica ADK, Merica-N et WDE Administrator sur mon disque. Et là, je me suis dit, mais pourquoi j'ai passé du temps dans ma RAM alors que j'avais des gentils petits points exe? Donc je les ai chargés. Il y a notamment Verify User, la fonction qui nous permet de dire ce mot de passe, c'est le bon. Alors, je les ai ouverts dans IDA et guess what? Il y avait plein de chaînes de caractères. Donc ici, on peut reconnaître du HTTP POST. Ça veut dire qu'il est censé pouvoir savoir faire des requêtes web. Là, il dit ça s'est bien passé ou ça s'est pas bien passé. Donc si on regarde qui utilise cette chaîne de caractères, on tombe sûrement dans une fonction qui sert à tester des mots de passe ou pas. Là, on peut pas lire, c'est dégueulasse, mais ça dit que j'ai bien vérifié l'utilisateur. C'est la fonction qui référence la chaîne d'avant. Allons-y. Là, c'est quand je montre que je suis complètement perdu. Là, c'est la liste des fonctions qui sont exportées par une des bibliothèques de fonctions qui contient tout ce que je cherchais dans la RAM, les yeux fermés, sans documentation ni rien. Il y a vraiment des fonctions qui s'appellent nouvelle clé, manipuler un utilisateur, changer un truc. Et ça, c'était ce midi en prenant un café. Je me suis levé à 5 heures et j'étais là en train de me dire, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? D'aller creuser dans ces petits points exe qui ont le bon goût d'être tout à fait lisibles, genre là. Ça a beau être de l'assembleur, on voit qu'il appelle récupère-moi les octets qui correspondent à l'identité, récupère-moi la key DB object, sûrement la clé, et après, je sais pas quoi. Et ça m'a l'air d'être une sacrée mine d'informations. Je suis ennuyé parce que j'ai copié-collé ça à l'arrache. C'est absolument pas lisible et je termine par une série de réponses. Donc allons-y. Avez-vous des questions? Oui. Est-ce qu'on a un deuxième micro? Il arrive.
Merci pour cette présentation.
De rien.
Mais en fait, ça a marché ou pas?
Vous savez tous maintenant que vous pouvez lire sur vos disques durs et c'était ça mon but au début. J'ai fait des petits bouts de script qui permettent, étant donné un disque dur, d'aller extraire les structures qu'on a vues tout au début du disque dur avec login, clé, données binaires. J'ai été regarder un peu dans les fonctions qui savent manipuler ça et donc j'ai préparé l'extraction de ces choses-là. Et la phase, je tente tous les mots de passe un par un, je ne l'ai pas. Donc j'ai passé beaucoup de temps dessus, ça m'a pris vraiment du temps et j'ai laissé ça en pause pendant longtemps. Et vraiment, mon propos, c'était que ça, j'en avais aucune idée avant de me lancer dedans et qu'en prenant mon temps pépère, je m'en suis sorti.
Donc en gros, ce qu'on en extrait, c'est tout ton procédé d'expérimentation, d'exploration. Est-ce que ces slides sont disponibles?
Oui, et elles seront sur le lien du THSF, ce genre de truc. Et
Génial.
je mettrai des scripts avec qui traînent que j'ai pas mis là pour gagner du temps.
Merci beaucoup.
De rien. En effet, c'est illégal si j'étais un ressortissant iranien. Dites-moi.
Le contenu du disque dur chiffré ne change pas. En fonction du mot de passe.
Non.
Du coup, il y a une clé d'encryption, d'écryption cachée quelque part.
Oui.
Elle est où?
Je crois que c'est. En fait, il y a plusieurs structures qui commencent par IDW, certaines qui sont préfixées par du texte ASCII qui dit administrateur ou mon login ou autre chose. Et il y en a une qui n'est préfixée par rien. Ce que fait LUX, le système de chiffrement pour Linux, y en a d'autres, c'est qu'il a une clé de déchiffrement du disque dur qui ne change pas. Et la seule chose qu'on change, c'est le mot de passe qui permet de déchiffrer cette clé. Comme ça, quand on change de mot de passe, on change juste la manière de stocker cette clé principale et on n'a pas à déchiffrer complètement le disque dur et à le rechiffrer complètement. On s'occupe juste de protéger cette clé secrète. Et alors oui, il y a une clé secrète. Non, j'ai pas réussi à l'avoir parce que je pense qu'on l'a sous forme chiffrée et que pour la déchiffrer, il faut avoir un mot de passe valide parmi ceux qui sont listés.
Parce que, en général, le mot de passe sert de clé de décryption pour accéder éventuellement à un truc qui permet de
Jamais.
déchiffrer autre chose, et ainsi de suite.
Oui, pardon. Si, si.
Voilà. Mais là, il y en a plusieurs, puisqu'il y a celui de l'administrateur, il y a celui qui est sur le réseau, il y a celui qui a perpète.
Alors, il ne faut pas
Comment ça se
oublier
passe là?
que Symantec a racheté PGP, qui était une entreprise qui vendait GPG, enfin, ce fameux système clé publique-privée. Et je soupçonne que tout ça se soit rempli de dérivations de clés publiques et clés privées dans tous les sens qui permettent, si on a un des secrets autorisés, d'avoir un accès au secret final. Ce genre de truc.
D'accord.
Merci.